Bonsoir à tous. On y est arrivé, mon petit Yao. On a eu un petit peu de mal à se brancher, mais on y est arrivé finalement. J'ai un petit quelque chose à te faire, Yao, aujourd'hui. Une chanson. Joyeux anniversaire, mon Yao. Joyeux anniversaire, mon Yao. Bon anniversaire, mon Yao. Ah ben attends, je vais mettre du son aussi. Cadeau.
Bonsoir, vous êtes bien dans votre émission Africa 22 Sport, 26e journée, saison 8. Et vous avez tout à fait raison d'avoir sélectionné la bande FM 201.9. Tout d'abord, comme on disait, El Soro de Moncontour, je tiens une fois encore à remercier collectivement pour tous vos messages d'anniversaire à mon égard. Ça m'a personnellement touché. Et une fois encore, merci, c'est un des plus beaux mots de ce moment très très complexe qu'on connaît tous. Un message de bienveillance, c'est une très très bonne thérapie.
Yao, ça se dit pas, mais t'as quel âge?
Ah oui, 4 décennies plus 3. Donc on peut dire qu'il y a une plume supplémentaire vis-à-vis de l'épervier pour prendre plus d'altitude. On tient une fois encore...
Tu les fais pas, hein, je dois le dire quand même. Hein.
Merci beaucoup. On tient une fois encore à remercier tous les invités, puisque aujourd'hui, Gaël Manchek, c'est une journée un peu. Chez nous, ici, dans votre bande FM de Radioactif, la journée internationale de la femme, c'est tous les jours, c'est au quotidien. On ne va pas choisir une journée de un jour sur 365 pour la femme, non. C'est tous les jours, tous les jours. Donc, on dit, on va faire un big up. Les invités aujourd'hui, c'est invités et eux. Mis à la fin, donc qui seront là tout à l'heure. Je fais allusion à Anaïs Jégu, une des responsables de la Braise Asia, Gaël Manchek, puisque c'est une course à pied qui est destinée au profit de la protection des animaux, parce que qui aime les animaux aime la vie, donc il faut penser à toute cette population-là qui fait partie de nous aussi. Et tout à l'heure, on mettra le zoom aussi, hein, et Gaël Le Manchek avec Anne Lacoste, qui a ramené pas mal de projets sportifs au profit des enfants au Togo. Et on sera notre invité pour nous élaborer et décortiquer, faire vraiment les perspectives de son projet au profit des enfants au pays des éperviers. L'homme qui tient la manette de cette émission Africa 22 Sport, comment va El Soro de Moncontour?
Eh bien, je vais formidablement bien, mon petit Yao. C'est un plaisir de t'avoir une fois de plus à l'antenne. Ça fait longtemps qu'on est mariés tous les deux de 18h à 19h. Hein
là, je tiens. Merci pour le.
On fait vieux couple comme ça, hein, tous les deux. Hein.
Mais le plus important, c'est l'échange, partage et la solidarité. Ça donne une alchimie, une fusion qui s'appelle l'échange et qui s'appelle le plaisir. Donc là, c'est ce qu'on va aborder tout à l'heure. Priorité à quelques minutes, puisque tu as la magie de tout ce qui est au niveau du stade briochien qui va recevoir Bourg-en-Bresse d'ici quelques minutes, non? Si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait. Et je repasse notre petit hymne du moment. Tu le connais, mon Yao, ça, hein? Est-ce que je te fais chanter cette semaine? Is give me a chance. Alors mon Yao, tu chantes aujourd'hui ou pas?
Oh non, je chante très très faux. Donc j'aime beaucoup danser, mais pas trop.
Tu vas danser, pas, tu vas danser, ouais,
danser,
tu vas
danser. Pas de problème. Pas de problème.
Tu vas onduler ton corps, je le sens.
C'est un joli morceau du pacifisme et de l'harmonie. Et quand on a la paix, on peut dire que le monde peut aller mieux. Mais comme on dit, le plus beau cadeau toujours, tu sais, Ben Planel, c'est la compréhension entre les hommes. Quand on ne se comprend pas, on fait des bêtises et on envoie ce message pour dégommer les bêtises humaines de ce qui se passe actuellement.
Et nous, Yao, on se comprend bien et nos auditeurs nous comprennent bien également. Alors, nos auditeurs qui sont en train, pour certains et pour la plupart, on va dire, hein, tout le monde est à, en route vers Fred Aubert ce soir avec un match vraiment très intéressant à suivre avec une équipe de haut de tableau. On va reparler tout de suite avec notre invité Hugo Boudin. Alors je ne suis pas sûr que tu le connaisses bien, mon petit Yao. On avait l'autre jour Christophe Kerbrat, on a eu Ahmad Allé également, on a eu pas mal de Zana Allé, la famille Allé qui était venue aussi sur Radioactive. Et puis là, cette fois-ci, j'ai pris, tu vas le découvrir, beaucoup vont le découvrir, Hugo Boudin, quelqu'un de formidable, avec des valeurs humaines absolument exceptionnelles. Et il en faut dans ce beau sport qu'est le football.
Tu m'as passé les informations, si je dis pas de bêtises, hein, c'est un défenseur central du Stade Briochin.
Mais pas que, il est capable de dépanner sur le côté, dans le milieu de terrain. Je suis sûr, il peut même faire avant-centre. Allez, ce soir, Hugo Boudin est avec nous sur Radioactive. Bonne soirée à tous. Bonsoir Hugo Boudin.
Bonsoir Gaël.
Comme il y a un peu de temps avec Christophe Kerbrat, on est en direct ce soir sur Radioactive. Il est un peu plus de 18h. 19h approche et les supporters du Stade Briochin se dirigent vers Fred Aubert. Et toi, tu es en cours de préparation de ton match. L'interview est enregistrée bien évidemment. Comment ça va Hugo?
Ben écoute Gaël, ça va très bien.
Ouais.
Je te remercie.
Bien remis de ton déplacement la semaine dernière à Annecy, de l'autre côté de la France.
Ouais, bien sûr, bien remis. C'est vrai que c'était un long déplacement, mais c'est toujours plus facile de rentrer quand il y a les trois points avec nous.
Les kilomètres paraissent tout de suite beaucoup plus courts. Alors on est bien content de t'entendre aujourd'hui. Tu fais une très jolie rentrée à Annecy justement pour aller gagner les trois points. Tu rentres d'ailleurs dans un moment de match qui était loin d'être simple.
Oui, il y a Christophe qui se blesse. Je suis sur le banc et je suis pas du tout prêt à rentrer. Mais voilà, c'est un fait de jeu. Après, on se tient toujours prêt à pouvoir dépanner s'il y a besoin, surtout sur les postes défensifs où la rotation est un peu moins importante que les postes offensifs. Après, voilà, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive, donc j'étais prêt et voilà, je suis rentré et par chance, les résultats ont suivi derrière.
Ouais, avec une jolie démonstration, on va y revenir tout de suite, mais je voulais absolument t'avoir, et ce depuis un petit moment, parce que dans une équipe de foot, on sait qu'il y a des rôles qui sont prépondérants, hein, l'attaquant, le défenseur central, le gardien, mais le rôle du remplaçant est aussi déterminant, et c'est plutôt dans ce cadre-là que tu évolues cette année au Stade Briochin, pouvant rentrer là aussi à plusieurs postes.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu aujourd'hui ce qui se passe pour moi. C'est un petit peu mon rôle dans le sens où à chaque fois qu'il y a eu des absences pour blessure ou pour suspension, j'ai pu intégrer le 11 de départ. Après, une saison est très longue, comme je dis souvent, et il y a besoin de tout le monde. Donc, je ne vais pas dire que je me considère comme un remplaçant, mais aujourd'hui, je joue quand on fait appel à moi surtout. Donc,
Donc voilà. Ouais, et puis avec des rentrées plutôt convaincantes, mine de rien, avec les suspensions, les blessures, t'as quand même un joli temps de jeu cette saison.
Ouais, alors après j'ai pas comptabilisé le temps de jeu que j'avais cette année, mais oui, je crois que je dois être quasiment à 12 ou 13 matchs débutés et 4 ou 5 rentrées si je me trompe pas. Donc voilà, pour un remplaçant, comme on dit, c'est plutôt du temps de jeu assez important, surtout à mon poste défensif où comme je disais, la rotation est un peu moins importante.
Et puis pour toi, c'est un aboutissement. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as été formé pour partie en tout cas au Stade Lavallois où tu te destinais plutôt quand même à une carrière professionnelle. Et puis te voilà arrivé au Stade Briochin il y a quelques années avec une aventure formidable et puis ses montées successives.
Oui, bien sûr. Alors après, comme tout joueur en centre de formation, on aspire et on rêve à devenir un joueur de football professionnel. Ça n'est pas arrivé à Laval, malgré une formation qui a été intégralement faite dans ce club. Après, voilà, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire et j'ai su rebondir après dans un club ambitieux de Saint-Brieuc qui sur les dernières années a bien évolué et qui m'a permis d'arriver au même niveau que le Stade Lavallois. Alors, peut-être jusqu'à la fin de la saison, je leur souhaite une montée en Ligue 2 et ils en sont bien partis. Mais voilà, au moins j'ai évolué aussi avec le club pour monter jusqu'en national.
Ouais. Ils doivent avoir des regrets quand même de voir que finalement ils avaient un bel élément à conserver. Non, je plaisante, mais pour toi c'est une jolie réussite quand même de te retrouver finalement face à face avec ton club formateur.
Bien sûr. Alors après, des regrets pour Laval, j'irai pas jusque là, mais oui, forcément, le fait de les rencontrer et de jouer au Stade Francis Lebasserre cette année, il y avait forcément un petit peu d'émotion, parce que comme je dis, c'est mon club de mes débuts, c'est le club de mon département. Voilà, on aspire toujours à jouer dans le stade de son département, à l'image d'un James Lemarais au Stade Briochin.
Voilà, c'est ça. Toi aussi, tu t'inscris dans la durée, et puis tu t'inscris aussi dans le département, parce que j'ai là aussi envie de faire une petite parenthèse professionnelle. On parle souvent du niveau national, qui est un niveau presque professionnel, semi-professionnel. Et toi, justement, on peut dire, t'as deux professions en une. Joueur de football lors des entraînements, des nombreux entraînements toute la semaine, et puis tu es courtier.
C'est ça. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis arrivé sur le secteur de Saint-Brieuc, le niveau étant, je n'avais pas la possibilité de vivre que du foot. Donc j'ai enclenché une carrière dans la banque, avec un passage d'un an au Crédit Agricole et 5 ans au Crédit Mutuel de Bretagne. Donc ça me permettait de jongler entre le foot et le travail. Et au passage en championnat de national, bien sûr, l'exigence augmentant, il n'était plus possible de concilier les deux. Donc j'ai fait le choix de prendre une disponibilité pour pouvoir tout simplement profiter de la montée en nationale. Ça aurait été dommage de ne pas en bénéficier en ayant fait les deux montées N3, N2 et N2 nationale. Donc voilà, j'ai fait ce choix et je voulais pas perdre le lien social qu'il y avait avec les clients et dans l'accompagnement qu'on faisait. Donc j'ai décidé de me mettre tout simplement à mon compte en tant que courtier en prêt immobilier.
Ouais. C'est très intelligent de ta part, mais c'est aussi forcément une dépense énergétique assez importante de devoir jongler, je pense surtout au niveau psychologique, parce que courtier, c'est quand même une profession où on doit être bien concentré.
Oui, bien sûr, c'est un métier où il faut se tenir en alerte de manière continue, puisqu'il y a toujours des évolutions. Mais c'est aussi ce qui est intéressant dans le métier, c'est qu'il y a du changement, il y a des clients qu'on accompagne du calcul de budget jusqu'à la signature notaire. Après, il y a une rotation aussi des clients, donc entre guillemets, on apprend toujours et voilà, c'est très enrichissant aujourd'hui de travailler dans ce domaine à côté du foot.
Et puis forcément, ça te fait encore plus connaître le bassin de Saint-Brieuc et les Côtes d'Armor. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je crois que tu étais présent ce week-end dernier, ou la semaine dernière plutôt, au Salon de l'Habitat qui avait lieu au Parc des Expositions de Brésilier.
Oui, tu as raison. Il y avait le salon de l'habitat au niveau du Parc des Expos, donc il se déroulait samedi, dimanche, lundi, donc sur 3 jours. Ouais. Il y avait un hall numéro 1 où on retrouvait surtout tout ce qui était construction, 2 agences immobilières. Mmh. Il y avait également une banque et nous, Finance Conseil, en tant que courtier en prêt immobilier.
Et si je parle de ça, c'est pas innocent, parce que la victoire d'Annecy la semaine dernière, aussitôt la fin du match dans le quart pour rentrer, le budget ne permet pas forcément des déplacements en avion, beaucoup d'heures de route, 10 heures je crois, et puis il faut retourner, comme on dit, à la maillotche le lendemain pour aller voir les clients dans un salon qui doit forcément, qui doit là aussi demander de l'énergie.
Oui, c'est ça. Après, c'est toujours plus facile de voyager quand on a les 3 points avec nous. Après, je vais pas cacher que le retour en bus a été un petit peu long quand même, avec un retour à 8h30 et il a fallu enchaîner sur le salon de l'habitat à 11h. Ouais. Donc voilà, c'était un peu court, mais voilà, on va dire que j'ai bien dormi samedi soir.
Bon, retour sur le parti sport quand même, on est là pour ça. Un match qui se profile donc ce soir à Fred Aubert contre Bourg-en-Bresse qui fait une superbe saison.
Oui, Bourg-en-Bresse qui est troisième aujourd'hui. Alors après, disons, on joue pas dans la même cour, on va dire, d'un point de vue infrastructure et financier, je pense. On le voit avec l'effectif qu'ils ont aujourd'hui et l'ambition claire qu'ils ont de monter en Ligue 2. Donc oui, ils sont, on va dire, à leur place.
C'est une série de matchs que vous avez qui, avec beaucoup d'équipes bien classées, prochainement vous aurez également Sedan et Villefranche qui se profilent. Le Stade Briochin engrange les points, on n'est pas encore au maintien tout à fait quand même.
Non, je pense que ce serait la pire des choses de croire qu'on est maintenu. Certes, on enchaîne des bons résultats sur les 5 derniers matchs où il va y avoir 3 victoires et 2 matchs nuls. Mais je pense que justement, il faut se servir de cette série pour pouvoir continuer et justement aller chercher les points suffisants pour le maintien.
Le public de Fred Aubert apprécie ces luttes justement pour le maintien. Il y a une cote de popularité, je pense que vous devez tous sentir de la part des supporters.
Oui, c'est sûr que le stade, tout de suite, dès qu'il y a des matchs un petit peu couperets, on va dire qu'il se met un petit peu à chauffer. Donc c'est bien en tant que joueur d'avoir le public derrière nous et j'espère et j'en suis sûr qu'ils seront derrière nous demain pour nous aider à récupérer 3 nouveaux points.
Tu veux dire ce soir, mon petit, parce que nous sommes enregistrés le jeudi soir. C'était la petite fan de corps, comme on dit.
C'est ça.
Merci beaucoup, Hugo. On te souhaite de rentrer, bien sûr, ce soir. Pourquoi pas d'être titulaire au moment où on se parle. Tu le sais certainement. Mais nous, au moment où on diffuse, on ne sait pas. Les gens sont en voiture. Ils arrivent sur le parking. Quelle est la composition? On va le voir tout de suite. Donc voilà, on te souhaite bonne chance ainsi qu'à tous les Griffons pour ce match qui est très important parce que à la fois la partie maintien, mais bon, pour faire un petit pronostic personnel, je pense que c'est quand même bien parti, mais jouer contre une équipe de haut de tableau, là aussi c'est la possibilité de se jauger un peu, n'est-ce pas?
C'est ça, ça permet aussi de voir où on en est sur notre qualité aujourd'hui. On avait fait un bon match là-bas. Malheureusement, on a été sanctionné sur une action en fin de première période qui nous a mis un petit peu la tête dans le seau, on va dire. Donc voilà, on a à cœur de prendre notre revanche contre Bourg-en-Bresse.
Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Merci beaucoup, Hugo. Bon match, bonne fin de saison et à très vite.
Merci, Gaël. À bientôt.
Voilà, Hugo Boudin qui qui j'espère qu'on va porter bonheur, mon petit Yao. Tu as pu apprécier l'interview de Hugo.
Ah oui, là, même avec d'ici quelques minutes, avec la réception de Bourg-en-Bresse, puisque c'est vraiment du lourd, puisqu'ils sont sur le podium en classement général en 3e et nous on arrive en 9e classement général. On peut dire que les Griffons, ce soir, d'ici quelques minutes, sont prêts à sortir les griffes, je crois.
Claire, et puis je pense aussi qu'il y aura un public nombreux parce que, d'une part, le temps n'est pas mauvais ce soir. Et puis, surtout, c'est que sur ces matchs-là, ces matchs couperets un petit peu, où on est capable d'accrocher un gros, on aime bien ça hein, en Bretagne, hein, les petits qui cognent les gros. Alors, on verra, faut aborder les matchs, comme l'a dit Hugo, avec humilité. Mais moi, je pense que le Stade Briochin peut faire quelque chose ce soir. Ils sont sur une belle série.
Déjà, le fait d'avoir le 12e homme, le public, et puis, on connaît la faveur de ce bel stade. Et là, ce qui va se passer, on reste quand même prudent. On va voir le match, ce qui va se dérouler tout à l'heure. J'ai dit, en classement, il y a Laval qui est en premier, deuxième Concarneau. Et troisième, avec la réception d'ici quelques minutes. Et Hugo, il a tout résumé. Bon, c'est le terrain qui décide. Et pourquoi pas une victoire à la maison, ça serait vraiment, ça va nous faire du bien et ça serait une très très bonne thérapie pour les Griffons. Ah, ça y est, j'ai pris le virus pour ce morceau. Vous êtes bien dans votre émission Africa 22 Sports, 26e journée, saison 8. Merci de votre fidélité à nos stations et vous avez fait le bon choix radiophonique 101.9. Et cette émission rediffusée ce samedi 12 mars de 11h à midi.
Allez Yao, c'est l'heure de retrouver une petite invitée que je te laisse nous présenter.
Vous êtes bien dans votre émission 26e journée, saison 8. Si la technique nous permet, on va mettre le zoom avec une des responsables de la Brésasia. Comment va Anaïs Jégu? Bonjour, ouais, ça fait plaisir, on dirait. On va essayer de prendre ton pouls sportif concernant le bel événement qui arrive à grands pas le dimanche 27 mars. Ah, ça fait plaisir, puisque avec la situation sanitaire, suite à cet événement, donc on peut dire le dimanche 27 mars, tous les ingrédients sont au beau fixe, Anaïs.
Oui, ça se prépare bien, en effet. Donc voilà, le 27 mars, c'est la Brésasia, c'est une course caritative qui se passe au Zooparc de Trégomeur, donc qui est organisée par l'association des amis du Zooparc de Trégomeur.
Ça, c'est très très important, puisque chaque année, c'est la troisième édition, non?
Oui, c'est ça. C'est la troisième édition, tout à fait, cette année qu'on va organiser après des petites difficultés, forcément, les années précédentes à organiser cette troisième édition qui a été décalée plusieurs fois.
Africa 22 Sport qui est en partenariat sportif avec ce bel événement costa-mauricain. Et on viendra relever le défi chez toi et au niveau du dimanche 27 mars. Alors, les gens qui nous écoutent, Anaïs, c'est quoi déjà la Brésasia? Les gens qui, il y a tellement de travail dans notre bel département, pour avoir une petite lecture concernant cet événement.
Alors, je suis désolée, je ne t'entends pas très bien et j'ai du mal à comprendre.
D'accord. Je dis, tu peux nous parler de ce joli projet qui est la Brésasia, les gens qui nous écoutent.
D'accord. Oui, du coup, c'est une course caritative en faveur des espèces animales. Donc voilà, organisée par l'association des amis du zooparc de Trégomeur, donc un parc zoologique situé à Trégomeur, près de Saint-Brieuc, enfin à 10 minutes de Saint-Brieuc. Et du coup, tous les bénéfices acquis lors de cette journée, enfin de cette matinée, les dossards des coureurs et les entrées des supporters sont reversés à des associations de protection animale. Cette année, on reverse l'argent du coup à trois associations, donc la LPO de l'île Grande, que je pense la plupart des costa-mauricains connaissent, qui récupère notamment les oiseaux qui sont un petit peu abîmés lors d'accidents ou autres, ou trouvés par des particuliers. Le refuge Piaf, qui se situe dans le Morbihan, qui du coup récupère là pour le coup plus des mammifères, enfin voilà, des oiseaux, un petit peu de tout, de la faune sauvage. Et l'association Boule et Pique, qui elle se situe dans l'Ille-et-Vilaine et qui s'occupe des petits hérissons en difficulté.
Ah, ça c'est voilà. Très très bien ça, puisque cette course a quelque chose de particularité, voire de singularité. C'est une course nature, comme tu viens de le dire, au profit des espèces animales. Alors les gens qui nous écoutent ce vendredi 11 mars à Anaïs, pour faire les démarches, est-ce qu'il y a encore la possibilité de s'inscrire, de nous donner les dernières informations fraîches sportives concernant l'inscription de cet événement du 27 mars?
Alors oui, il y a encore la possibilité de s'inscrire. Donc, les inscriptions se font sur le site NextRun. Donc, toutes les informations sont aussi sur le Facebook de la Brésasia. Donc, par contre, voilà, sur le site NextRun, vous pouvez vous inscrire soit au 10 km, donc un petit peu moins de 10 km, hein, 9,5 km, on va dire, qui se fait soit en solo, soit en duo. Donc, possibilité de s'inscrire aussi en A2, chacun fait un petit peu moins de 5 km. Et on a également des courses enfants, donc pour trois catégories, on a divisé les catégories enfants en trois courses, une de 400 mètres, une de 900 mètres et une de 2 km. Donc voilà, il y en aura pour vraiment tout le monde.
Et au niveau du programme, tu peux nous redire une fois encore le programme du dimanche 27 mars concernant la course de 10 km?
Alors, la course des 10 km commencera à 10h15 et du coup, on enchaînera après vers 11h30 midi. Je crois que c'est midi, le début des courses enfants par la suite. Et donc, pour l'inscription, au niveau des prix, donc c'est 11 € pour les adultes pour le 10 km. Et en duo, c'est 16 € et les courses enfants, c'est 5 € et 2 €.
Ça va nous faire du bien sous forme de thérapie avec le fait que les événements sportifs commencent à se reprendre sportivement, non Anaïs?
Oui, tout à fait, oui. C'est vrai qu'on a beaucoup de monde on a beaucoup de personnes qui se disent intéressées, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup quand même. Enfin, il y en a quelques-unes qui reprennent, mais on n'en a pas vu beaucoup dans le département, notamment pour l'instant. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de retours positifs là-dessus. En plus, je pense que d'ici fin mars, il fera beau. Donc les gens ont envie de sortir aussi un peu plus à la sortie d'hiver. Donc, et puis bon, dans le parc, c'est vrai que c'est quand même assez sympa, avec le chant des oiseaux, justement, le chant des primates aussi, voilà, les cris des lions, tout ça. Je pense qu'ils auront leur bonne dose de nature aussi. Donc globalement, les gens devraient être satisfaits.
Chaque année, je viens relever le défi chez toi là-bas au niveau de Zoo de Trégomeur. Je vais effectuer le défi encore le dimanche 27 mars où je vais faire le 10 km. Et c'est quand même en dehors de ce bel événement, Anaïs, c'est quand même une manière aussi pour la sortie familiale aussi, non, en dehors de la course. Les gens peuvent en profiter pour voir les animaux, se promener dans le parc, non?
Oui, tout à fait. Donc à l'issue de la course, donc le matin déjà, on fait rentrer les supporters, mais vraiment les supporters, hein, ceux qui sont là pour les coureurs, pas des visiteurs, voilà, qui peuvent rentrer donc à tarif réduit à 5€ le matin. Et après, ces mêmes personnes peuvent rester tout au long de la journée, parce que habituellement au mois de mars, le parc est ouvert de 13h30 à 17h30. Donc là, à 13h30, les tarifs seront ceux des visiteurs classiques pour le mois de mars. Et du coup, voilà, les gens qui sont arrivés dès le matin, les coureurs, pourront rester ou revenir dans l'après-midi. Donc, faudra bien qu'ils se présentent à l'accueil, par contre, s'ils doivent sortir sur l'heure de midi, par exemple. Mais du coup, voilà, ils pourront passer leur journée au parc et profiter, voilà, de l'environnement toute la journée pour faire une petite sortie au zoo.
Et Anaïs Jégu, toi qui es une des organisatrices de ce bel événement de la Brazzasia 3e édition, on fait quand même un big up pour la machine de guerre au niveau des bénévoles, au niveau de l'équipe de Zoo de Trégomeur qui se sont mobilisés au profit de ce bel événement.
Oui, on est quelques membres de l'association et employés du parc à être motivés par cet événement qui nous tient vraiment à cœur. Et puis au-delà de ça, on a plusieurs bénévoles, enfin voilà, plusieurs dizaines de bénévoles autour de nous qui gravitent et qui nous permettent justement de créer cet événement-là, parce que sans les bénévoles, c'est sûr que ce genre d'événement ne pourrait pas avoir lieu. Donc merci à eux, ils sont super importants pour nous.
Ça, tu as très très bien souligné ce détail, ça c'est très important. Donc on rappelle une fois encore la Brazzasia 3e édition, le dimanche 27 mars, et la course de 10 km démarre à 10h15 au sein du parc. Et là, les gens qui n'ont pas encore pris leur décision, il y a possibilité de s'inscrire, et toutes ces informations, redonne encore une fois encore le site où les gens peuvent aller se procurer, s'inscrire et avoir plus d'informations concernant cet événement.
Alors oui, c'est toujours sur le site Nextrun, et toutes les informations sont aussi sur la page Facebook de la Brazzasia et sur le site du zooparc de Trégomeur également.
Merci beaucoup Anaïs Jégu, tu connais bien Radioactive, tu passes quand tu veux, nous on sera sur le terrain pour relayer ce bel événement au profit des espèces animales. Merci Anaïs.
Merci Yao, merci Gaël.
Merci.
ce morceau de Newtown, Life Without Buildings. Tout de suite, Yao, ton invité qu'on aime tant recevoir, Anne Lacoste.
Vous êtes bien dans votre émission Africa 22 Sport, 26e journée, saison 8, et vous avez fait le bon choix radiophonique. Comme je te disais tout à l'heure, Gaël Manchek, la journée internationale de la femme, c'est tous les jours la preuve, les invités et eux. Après Anne et Anaïs Jégu, on va mettre le zoom sportif avec Anne Lacoste. Comment va Anne?
Anne va très bien et merci pour cette invitation et cette introduction, Yao.
Ah, j'aime bien la voix. Là, ça, c'est la voix. Ce n'est pas de l'épervier qui atterrit du côté de Rennes, mais c'est un pigeon voyageur qui est en Bretagne. Alors, nous parlons.
Oui, en Bretagne, mais qui se prépare à repartir très vite au pays des éperviers dès mardi.
Ah, ça fait plaisir, ça. Anne Lacoste, la correspondante permanente de Africa 22 Sport qui est actuellement en Bretagne. On dit, on va essayer de prendre son pouls sportif parce que tu as ramené beaucoup de projets sportifs au profit des enfants en Afrique. Et Anne Lacoste.
Oui, tu sais, on a tout ça en partage. Yao, donc c'est l'Afrique, c'est le sport en Afrique, il y a tellement de choses à faire et donc à ma petite échelle au Togo, j'essaye de monter des projets sportifs, il y a des talents, il y a des jeunes qui ont envie, donc si on peut les aider, eh bien effectivement on joue notre rôle.
Là on voit bien que le calendrier sportif commence à s'apparaître un peu concernant la situation sanitaire, on voit les choses à l'horizon au bout du tunnel. Là je fais allusion du 27 mars prochain où va avoir le grand prix hein, du CA du côté de Yaoundé, du côté de Douala plutôt au Cameroun. Et alors les calendriers, les choses vont aller en crescendo maintenant, Anne.
Alors, tout le monde espère parce qu'effectivement, après ces années, on va dire, de disette en termes de compétition sportive, il est temps que ces sportifs puissent briller à l'extérieur du pays. Je pense notamment aux athlètes de course à pied qui, l'année dernière, ne sont pas sortis. Et si on veut qu'ils soient repérés, eh bien, il n'y a pas de mystère, il faut aller à l'extérieur. Si on veut qu'ils soient challengés, moi, je pense à Étienne, là, le champion du 1500, du 800 mètres, ben, c'est le champion. Il est tout seul, alors que, s'il court dans d'autres compétitions, il y aura quelqu'un devant lui. Et j'espère bien qu'il va éclater son record du Togo.
Oui, ça, c'est important ce que tu dis. Donc, c'est une occasion aussi, hein, si tu as les gens qui ont de certains équipementiers ou de certaines accessoires sportifs qui n'ont pas besoin, il y a possibilité de récupérer ces accessoires au profit des enfants ou des gens qui en ont besoin de l'autre côté de l'Atlantique, non?
Oui, c'est vrai. Je parle d'Étienne et l'année dernière. Voilà, il y a un magasin qui m'a offert une paire de chaussures avec des pointes toutes neuves que je lui ai remis. Donc c'est pour lui c'est génial parce que ces athlètes non seulement ils n'ont pas beaucoup de moyens pour aller courir à l'extérieur, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour s'équiper. Donc il y a à la fois des produits qui peuvent avoir une seconde vie, on va dire au Togo, et des produits neufs qui sont offerts aux athlètes, et bien si on peut en bénéficier, c'est super.
Et là même, si on pousse un peu le calendrier, c'est tellement riche sportivement, le 1er et le 2 juillet prochain aussi, il va y avoir le championnat national junior senior au Togo, où ton association sera impliquée, qui seront présents sur le terrain.
Bien sûr, donc on sera tous au stade de Kégué, que tu connais, de Lomé. Et avec ce calendrier, ça nous permet d'être en rétro-planning et de mobiliser les jeunes pour qu'effectivement, ils puissent participer à des critériums de sélection régionaux. Et ensuite, les premiers iront au stade de Kégué dans la capitale. Donc maintenant que le calendrier est fixé, à nous de battre la campagne et de faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui se bougent sur toutes les épreuves de l'athlétisme pour pouvoir, pourquoi pas, aller briller à la capitale.
Oui, puisque les correspondants permanents de Africa 22 Sport seront présents, j'ai fait allusion à David Asmadi, à Edwige Apedo, Hugo Tico, que tu connais très bien, la staff de Africa 22 Sport du côté des éperviers, du côté de Lomé au Togo. Alors, ça veut dire que le mois de juin aussi, il y a détection de talents aussi dans le milieu de l'athlétisme au Togo.
C'est ça. Donc moi, je suis persuadée qu'il y a des talents partout. et que c'est à nous de les stimuler, ces talents, en leur montrant que tout est possible. Donc on a commencé avec la course à pied, à Agou notamment, avec un projet qui a permis aux enfants de courir. Et maintenant, il y a le champion de saut en longueur qui vient nous aider à entraîner les jeunes et nous aider à détecter les futurs talents dans toutes ces épreuves d'athlétisme, parce que c'est pas forcément des épreuves qui sont connues des jeunes. Et donc, c'est à nous d'aller montrer qu'il y a toutes ces épreuves et donc les qualités des futurs athlètes, elles sont variées. Il n'y a pas que le sprint, il y a l'endurance, il y a le saut, etc. Parfois, ils n'ont même pas les équipements pour présenter des athlètes. Je pense au poids, au javelot. Il y a dans les zones rurales, bien évidemment, qui n'ont pas les équipements. Mais par contre, tout le monde peut courir, tout le monde quasiment peut faire du saut en longueur. Donc, si déjà dans les zones rurales, on arrive à mobiliser des jeunes pour s'entraîner sur ces disciplines et pourquoi pas à briller, eh bien, ça aussi, c'est une bonne action.
On tient une fois encore Anne Lacoste, toi qui es la correspondante permanente de Africa 22 Sport depuis Lomé au Togo. Alors, je fais une dédicace aussi à tout ton staff, les gens qui permettent de mettre en œuvre tes actions sportives et humanitaires, voire caritatives au Togo, avec Prosper Agboko, Komlan et Yao Agbeko aussi, en Tona, et tous, Claude, Edem, Elisabeth Agbeko, Kokou, tous ces présidents de Ligue d'Agou, c'est ça qui donne l'ossature, qui donne vraiment. On dit tous les joueurs ne sont jamais pareils, mais ils font le même travail.
C'est sûr que, moi seul, je ne peux rien faire. Donc, heureusement, à Agou, il y a une super équipe. Donc, ils se sont organisés en comité d'organisation. Ils prennent les choses en main. Tu en as cité quelques-uns que je salue au passage, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier M. Tchagonomou, qui est le professeur de sport, qui, tous les dimanches, deux fois par semaine, certaines semaines, entraîne ses jeunes, il prend sur son temps, il est super motivé, il crée du réseau, il fait connaître à goût, donc c'est génial.
Et enfin, un big up aussi avec l'association où tu es en partenariat aussi à ASBT, où chaque fois je relais le défi au profit de ces enfants orphelins du Togo, ASBT, Association Amitié Saint-Brieuc Togo, sans oublier son président, monsieur Ako, et Gaëtan Ako. Et c'est tout. Donc, tout, on le fait big up de rester en partenariat avec ton projet. Alors, Anne, pour donner les dernières informations au niveau du site, les gens qui veulent faire des gestes, des dons ou des récupérations ou des matériels d'équipementier que les gens n'ont pas trop besoin de deuxième vie. Donc, tu peux nous donner d'autres informations où les gens peuvent aller recueillir les informations?
Bien sûr, donc moi je suis responsable d'une ONG qui s'appelle Antenna France et qui lutte contre la malnutrition en Afrique par la culture de spiruline. Et c'est comme ça que j'associe aussi spiruline et sport, bien évidemment. Et donc mon adresse mail, bien c'est anne@antenna-france.org. Et merci de me donner l'occasion de donner mon contact, Yao.
Merci beaucoup, Anne. On dit, on va essayer de prendre ton pouce sportif. Donc une fois atterrir au Togo, donc on prendra ton pouce sportif pour d'autres projets. On a énuméré tout à l'heure et on va te suivre vraiment en filigrane. Et Gaël Le Manchet, qui est le technicien de l'émission, qui connaît bien tes actions aussi au Togo.
Exactement, mon Yao. Je suis toujours fan. Et puis là aussi, tu vois, je vais remettre cette petite chanson qui nous est chère parce que moi je l'aime beaucoup. Et puis voilà, quelque part, Anne, elle diffuse de la paix un peu partout dans le monde parce que s'occuper des plus démunis, c'est aussi quelque part sauvegarder la paix, que ça soit au Togo, en Afrique ou partout où elle passera. Hein, les échanges entre les différents pays, c'est vraiment quelque chose qui est important à relayer.
Ah oui, tant qu'on n'a pas ce parfum, on n'a pas l'énergie de faire ces actions humanitaires, voire caritatives, au profit de ces enfants. Anne, ça nous a fait beaucoup plaisir. On dit coûte, on voulait avoir tes nouvelles. On te remercie d'avoir répondu sportivement à cette émission.
Super, merci Yao, merci Gaël pour ces belles paroles également. Et donc, bonne continuation à Africa 22 Sport.
Ça va devenir l'hymne officiel de Africa 22 Sport.
Je t'avais prévenu, mon petit Yao. J'aimerais bien l'écouter tant qu'on peut, cette chanson-là. Ça coûte pas cher, comme on dit, mais ça va et que ça nous lie tous. Et on a besoin en ce moment d'être très solidaires.
Ça dégage de l'harmonie et puis du parfum pacifique à travers les hommes. L'émission Africa 22 Sport rediffusée aujourd'hui, il est 18h42, ce vendredi 11 mars, et rediffusée ce samedi 12 mars de 11h à midi. Et merci une fois encore de votre fidélité. Et n'hésitez chaque fois de boire radiophoniquement votre station radioactive 101.9.
Et tout de suite, nous retrouvons notre invité, notre dernier invité de l'émission. Et quel invité! Bonsoir Bruno Cornillet.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radioactive.
Bruno, c'est pas la première fois que tu viens sur Radioactive. Tu étais déjà venu l'année dernière alors qu'on préparait un petit peu ce passage du Tour de France en terre bretonne. C'était pour nous tous un très grand moment qu'on a partagé ensemble.
Oui, tout à fait. Ouais. Une fierté d'accueillir le vélo dans le 22.
Oui, tout à fait. Département qui t'est cher. Pour ta part, donc, tu es Lamballais d'origine. Et puis, forcément breton. Et en ce moment, et c'est pour ça que je voulais t'avoir aujourd'hui, tu es depuis quelques mois jeune retraité, puisque tu étais pilote de ligne, hein, c'est bien ça. Et puis maintenant, tu es passé conseiller technique pour l'équipe Bretagne Sud Cyclisme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce nouveau projet?
Oui, c'est bien ça. Donc, Bretagne Sud Cyclisme, j'y suis venu en tant que manager, donc mais bénévole, parce que manager, c'est très pompeux, mais je suis plus membre du conseil de surveillance, on peut dire, pour apporter déjà mon soutien, parce que j'estime que l'encadrement technique est vraiment exemplaire. J'ai pas peur des mots, c'est-à-dire que ils mettent en harmonie des coureurs qui favorisent les études ou le travail et le cyclisme. Donc l'idée de la biqualification est là pour les jeunes. Donc l'idée, c'est de garder les jeunes dans un contexte qui leur soit favorable, c'est-à-dire familial et professionnel.
Alors cette équipe Bretagne Sud Cyclisme, pour que nos auditeurs qui ne connaissent pas soient un petit peu situés, c'est la suite logique, on va dire, de l'équipe d'Enbon, hein, du club d'Enbon, le team Enbon qui évolue en DN3.
C'est ça. Donc les coureurs viennent principalement de Vannes, donc de la région aussi bretonne. Le programme est centré sur des courses régionales. C'est pas une équipe de premier plan. Ce sont des coureurs qui peuvent s'exprimer grâce aux entraîneurs que sont Yann Dejean, Pascal Arnois, et qui a une ambition très raisonnable. Donc, ces coureurs jeunes ont que besoin d'être encouragés. Et donc, sans complexe, ils ont très bien marché. Récemment, Ludovic Maurice a gagné l'étoile de Trécignot. Et puis, ça reflète le bon comportement d'ensemble. Mais j'insiste sur l'état d'esprit parce que on les a vus actifs sur les courses de plage vendéenne. On les a vus volontaires, quelques erreurs de jeunesse. C'est très normal. Mais c'est l'état d'esprit qui prime dans cette équipe.
Et la formation, c'est un sujet qui t'est cher dans le cyclisme. Toi-même, tu as eu la chance d'être formé auprès des plus grands qu'on a connus dans les Côtes d'Armor, à commencer par le blaireau Bernard Hinault. Tu as eu ces opportunités-là à l'époque, mais le cyclisme a bien changé quand même par rapport à ce que toi, tu as connu.
Oui, je reconnais que le contexte est vraiment décisif. C'est-à-dire que pour mon cas, j'avais du talent, mais je suis pas non plus un coureur comme Bernard Hinault. Donc, ce talent s'est exprimé parce que l'entourage aussi bien familial que socio-professionnel était là. C'est-à-dire que j'ai pas lâché mes études, enfin assez tardivement, mais quand même à 19 ans. Et je suis passé jeune professionnel, mais c'était pas possible sans le soutien de mon club, et c'était un club où bien sûr il n'était pas question d'argent, mais par contre il était question de bonne volonté, de voilà, un maillage très serré entre les comités des fêtes locaux et le club, parce que je me souviens que c'était dans les années 75, le club de l'Union Cycliste Lamballaise, qui est regroupé aujourd'hui avec l'ex Stade Lamballais, voilà, eh bien, organisait le même jour plusieurs courses. Donc, pour les mêmes catégories, d'ailleurs, c'est formidable. Il n'y avait même pas 15 km à faire pour aller sur une course. Et donc, il y avait une ferveur populaire, parce que souvent on retrouvait la fête foraine et c'était un événement dans le village. Et donc, tout cet engouement fait que je suis resté dans ce club par remerciement aux bénévoles. Et même quand j'avais des résultats et que beaucoup d'autres équipes me voulaient, non, j'ai préféré rester parce que l'intérêt, c'était de choisir mon programme de course moi-même et de pouvoir essayer de briller sur les courses, même si j'en faisais pas énormément de courses de prestige.
Ce genre d'évolution que tu as eue, on va dire une évolution sereine, hein, dans, comme tu viens de le dire, dans un cadre serein, c'est ce que tu conseilles également aux jeunes qui font partie de l'équipe Bretagne Sud Cyclisme. Je pense notamment, alors tu viens de parler de Ludovic Maurice, hein, qui est tout jeune, hein, qui a 20 ans. Je pense également à Théo Tardivel, hein, qui fait partie de cette équipe et qui est costa-armoricain, hein, du secteur de l'Oudéac. Tu as des mots de temps en temps, tu t'entretiens avec eux, ou alors est-ce que c'est un regard extérieur, peut-être plus pour aider, que ce soit Yann Dejean ou Pascal Arnois?
Oh, il connaît très bien Yann, son travail, non? Je viens plus porter la voix de mes convictions en toute indépendance quand je viens sur les courses. Donc, je suis venu à leur camp d'entraînement cet début de saison là, et puis j'ai pu un petit peu leur dire ma façon de voir les choses, mais ils apprennent vite sûrement avec Yann. Bon, je suis pas inquiet, Yann Dejean, c'est un petit peu quelqu'un qui est non seulement directeur sportif mais aussi éducateur. Alors il a des valeurs à défendre, et ça tombe bien, c'est les miennes. Donc je suis pas du tout inquiet, non. C'est pour ça que je suis venu quand il m'a proposé.
Bon, 23 coureurs qui composent cette équipe de Bretagne Sud Cyclisme, et puis quelques ambitions quand même, parce qu'il faut quand même rappeler que Hennebon, le team Hennebon l'année dernière avait remporté la Coupe de France en DN3. Alors on voit ça avec ce succès de Ludovic Maurice, hein, la semaine dernière à l'Étoile de Trécigneau, peut-être quelques ambitions quand même. Tout à l'heure, j'avais l'impression que tu avais certainement un petit peu de modestie, d'apporter tout doucement ton envie et de voir les coureurs qui vont aller aborder cette saison avec une certaine modestie aussi. Il y a certainement de quoi faire de très belles choses avec cette équipe quand même.
Alors attention, c'est pas une modestie mal placée. Ils ont l'ambition d'avoir un bon niveau sportif. Ceci dit, leur axe de développement se situe sur le côté régional, avec un programme donc centré sur les courses à venir. Donc pour moi, ma vision, c'est aucune obligation, quoi. Ces coureurs là font ce qu'ils peuvent. Le coureur lui-même se met déjà suffisamment de pression sans en rajouter davantage. Je sais qu'ils ont à cœur de porter haut les couleurs de Bretagne Sud Cyclisme. Je vois pas l'intérêt de leur demander des résultats si c'est au-dessus de leurs possibilités. Il faut reconnaître que leur avantage, c'est qu'ils soient dans une bonne ambiance, qu'ils puissent prendre du plaisir sur les courses. Et puis après, s'ils peuvent faire des résultats, tant mieux, mais c'est pas l'unique but. C'est-à-dire que dans une course de vélo, la manière compte beaucoup plus que le résultat.
Un coureur cycliste a aussi besoin de temps pour s'épanouir à la fois dans son équipe et puis individuellement, je pense.
Ah oui, ça se construit, c'est-à-dire que la progression elle n'est pas linéaire. Bon, j'en ai fait l'expérience. À l'époque, je faisais tout ce que je pouvais à l'entraînement et bon, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. C'est vrai que je courais très mal puisque bon, je gaspillais mes forces, mais je reconnais qu'il y a une suite de paliers. Alors, un coureur peut très bien se mettre à progresser parce que sa croissance a progressé. Enfin, je veux dire, s'est stabilisé ou disons des paramètres physiques qui ne sont pas quantifiables. Hein.
Et puis, il y a différents types de coureurs également, des coureurs qui sont certainement avec un potentiel important hein, pour gagner des courses, et puis ceux comme lequel tu étais dans le peloton professionnel, en tout cas, pour apporter ton énergie aux leaders comme Bernard Hinault ou comme Greg LeMond, avec lequel tu as remporté le Tour de France 1990.
Oui, c'est ça, surtout qu'on gagne pas une course tout seul, quoi. Il faut des coéquipiers. Alors, un jour c'est le coéquipier A, le lendemain c'est le coéquipier B, donc chacun va aussi, si possible, aux avant-postes la course d'après. Donc il y a des renvois d'ascenseur, c'est-à-dire que l'effet, si vous voulez, dans le peloton, l'effet d'abri au vent joue énormément. Le premier qui roule se fatigue plus vite et derrière, c'est-à-dire le premier, ça va être le coéquipier qui aura moins d'ambition pour gagner la course. Et il entraîne comme ça aussi le coureur qui, lui, marche mieux et qui va défendre les couleurs de l'équipe à la ligne d'arrivée, vous voyez. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qui permet que tous les coureurs puissent avoir satisfaction.
Demain, Noyal-Châtillon dans l'Ille-et-Vilaine, c'est le souvenir Louison Bobet sur lequel s'alignera forcément le Bretagne Sud Cyclisme. Il y a des rendez-vous comme ça qui sont importants pour une équipe. Il y a également une autre course qui se profile aussi, c'est le Trophée Jean Floch, le circuit du Morbihan.
Ah oui, alors ce sont des courses, si on regarde le palmarès, elles réunissent des bons coureurs et donc c'est franchement des courses qu'on aime à accrocher au palmarès. Il y a aussi des très bons coureurs chez Bretagne Sud et ça, ils se sentent concernés. On peut aussi parler du circuit du Morbihan, de la Flèche Lotminoise. La Gilbert Bousquet, les boucles guégonnaises, et donc ça promet beaucoup de rebondissements encore, mais les bases sont solides, les coureurs sont assez concentrés et ils écoutent beaucoup les directeurs sportifs, donc pour l'instant tout marche assez bien, l'ambiance est très bonne.
Oui, et puis sans se prendre la tête, sans leur dire ben si tu gagnes celle-là, c'est un contrat pro qui arrive, on fait les choses gentiment, patiemment.
Oui, parce que voilà les résultats. Enfin, quand on s'est donné tous les moyens et qu'on n'a pas de résultats, on n'a pas de regrets. Vous voyez, si on fait pas ce qu'il faut, ben là évidemment, faut se poser des questions. Mais ils ont fait tout ce qu'il faut, ils se sont bien entraînés. À partir de là, la partie est gagnée. Il y aura pas de regrets.
Il n'y a pas de secret dans le cyclisme, absolument. Enfin, il y a parfois des petites surprises, un petit peu comme aujourd'hui. Tiens, on peut parler aussi de cette magnifique épreuve qui est le Paris-Nice. Hein, Paris-Nice que tu connais bien pour avoir fini quatrième en 89 notamment. Hein, comme quoi, Bruno Cornillet n'est pas qu'un équipier, il arrivait quand même à faire de jolies performances. Parle-nous de cette équipe. Tu l'as vu sans doute ce succès de Mathieu Burgaudeau sur cette sixième étape du Paris-Nice.
Oui, alors là, vraiment, j'ai vibré jusque la ligne parce que, au fur et à mesure, c'était une échappée qui a eu lieu à 9 km d'un homme seul, Mathieu Burgaudeau, et on pouvait craindre que le peloton allait revenir sur lui. Ouais. Et en fin de compte, il a gardé juste la longueur d'un vélo sur le deuxième. Alors, c'est épatant comment il a réussi à relancer la mécanique. Je l'ai vu à 500 mètres d'arrivée, j'étais bluffé et donc c'était vraiment enthousiasmant de voir une belle victoire. Alors il l'a mérité 100 fois. Hein. Ouais. Moi, tout ce que j'espérais, c'est qu'il soit pas rejoint forcément. Mais franchement, ça, J'ai pas eu de sentiments qui se sont réveillés pour mon cas, mais en tout cas parce que je suis ancien cycliste, mais sauf que j'ai vibré comme un spectateur et vraiment c'était un gros suspense.
Et puis derrière lui il y avait quand même du costaud, hein, Mats Pedersen, oui. Wout van Aert, ah, oui. Là ça, ouais. Quand on dit ça a lâché, oui. Les chevaux. Alors sur ce genre de d'étape, lorsque un peloton est en train de d'essayer de rattraper un coureur, on évoque souvent ce principe d'oreillette et puis de calculateur qui permettent à un peloton de reprendre des échappées. Toi-même tu n'avais pas ces méthodes-là à l'époque, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est vrai. Donc, je ne peux pas avoir une. Mon opinion ne peut pas être, comment dire, la parole d'évangile, puisque je n'ai pas connu ça. Et donc, moi, honnêtement, vu le final, vu l'engagement qu'il a mis pour les derniers kilomètres, parce que je ne pensais pas qu'il aurait eu autant de force pour la fin, on peut supposer que là, dans l'oreillette, il avait des informations. Je reconnais. Il ne s'est pas retourné. On voit bien, dans le final, l'ardoisier n'a été d'aucun secours, puisque vraiment, il avait le peloton aux fesses, hein, à 10-15 secondes. Honnêtement, bon, je reconnais que l'oreillette a dû jouer un rôle favorable, parce que foncièrement, je suis très contre. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire que l'oreillette annule l'esprit d'entreprise du coureur ou le fait rentrer dans des suppositions, des calculs. En tout cas, aujourd'hui, les coureurs doivent avoir une certaine maturité, surtout les directeurs sportifs, pour utiliser l'oreillette, parce qu'au départ, bien sûr, ça devait être plus un inconvénient à communiquer du stress aux coureurs. Aujourd'hui, les coureurs, bon, en tout cas à l'image de Mathieu Bourgaudeau, j'ai bien vu qu'il avait gardé une spontanéité dans son attaque et que ça peut difficilement être un coup de téléphone de l'oreillette, allez vas-y, c'est le moment. Bon, j'ai été très impressionné par sa vista, disons.
Ouais. On verra, on a hâte à dimanche et à ce final de Paris-Nice sur le Col d'Aise. On espère que Pierre Latour, qui est actuellement quatrième au classement, va réussir à se hisser sur le tableau. Autre grande nouvelle également aujourd'hui, notre Breton Warren Barguil, qui a levé les bras sur la cinquième étape de Tirreno-Adriatico. Merci beaucoup Bruno, il est temps pour nous de rendre l'antenne. On se dit à bientôt, plaisir. Bruno.
Oui, merci. Bonne soirée.
Merci beaucoup Bruno Cornier. Et merci d'avoir répondu sportivement à cet appel. Donc là, ça veut dire que le 27e émission n'est pas loin. On l'abordera la prochaine fois. Merci beaucoup. Un big up à Florian et tout le monde. Comme on dit là-bas, vivons sport et surtout, soyons fous.